Radio Prague, les informations.
La Tchéquie renforcera le contingent de ses soldats en Afghanistan. Le gouvernement a donné son aval au budget de l'État 2011. La société Hyundai en République tchèque lance un nouveau modèle de voiture. La République tchèque envisage de renforcer ses effectifs militaires en Afghanistan de 200 soldats. Au cours de l'année prochaine, il devrait avoir donc en Afghanistan au total 730 militaires tchèques. Cette information a été confirmée par le ministre tchèque de la Défense, Aleksandr Vondra. Le projet d'Aleksandr Vondra a été critiqué par l'opposition. Le cabinet de Petr Nečas a donné son aval au budget de l'État 2011 avec un déficit de 135 milliards de couronnes. Le gouvernement a décidé de réduire les dépenses de l'État pour pouvoir présenter un déficit plus bas que l'année dernière. Cette réduction se traduira par d'importantes modifications concernant notamment les allocations sociales, les allocations famille ainsi que l'épargne logement. L'opposition a rejeté le projet de budget présenté par le gouvernement selon le chef intérimaire du Parti social-démocrate Bohuslav Sobotka. L'opposition n'appuiera pas ce projet dont la conception est erronée. D'après ses paroles, la politique fiscale qui favorise les citoyens riches nuira aux familles qui seront privées de certaines allocations sociales. Les programmes régionaux réalisés en République tchèque avec la participation financière de l'Union européenne seront cofinancés par le budget de l'État, une information du ministère de l'Aménagement du territoire. Au mois d'août, le cabinet tchèque a arrêté le cofinancement de ces programmes à cause des restrictions budgétaires, ce qui a provoqué de nombreuses protestations des représentants régionaux. Selon une évaluation du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère de l'Environnement, les centrales photovoltaïques en République tchèque feront augmenter de 8% le prix de l'énergie électrique dans le pays. Un document à ce sujet a été soumis au gouvernement par les ministères. Début septembre, il y avait en République tchèque des centrales photovoltaïques d'un rendement de presque 700 MW. La société automobile Hyundai a présenté en avant-première un nouveau modèle de voiture X20 qui sera fabriqué dans l'usine de Nošovice près de la ville de Frýdek-Místek en Moravie du Nord. C'est déjà le troisième modèle Hyundai produit par cette usine en République tchèque. Ce mercredi, la société Hyundai a expédié les premières 8 voitures du nouveau modèle au Danemark. Selon le directeur de Hyundai Motor Manufacturing Tchèque, il s'agit d'une voiture conçue pour les familles avec enfants. Météo. Ce jeudi, fête de toute liberté, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est clair, les températures se situent entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Vendredi, le ciel en Tchéquie se couvrira progressivement, mais les températures resteront encore relativement élevées et s'échelonneront de 20 à 24 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission. Au sommaire aujourd'hui, les autorités tchèques contre le géant américain Google et son système de photographie Google Street View, un système qui pose un problème concernant la protection de la vie privée. Voyager en train, c'est bien et c'est pas cher. Une nouvelle campagne de la Société des chemins de fer tchèques pour attirer de nouveaux clients. On vous en parlera juste avant de passer à la littérature et au prestigieux prix Jaroslav Seifert, décerné cette année à l'écrivain et journaliste Jachim Topol. Et puis, le débat autour de la future bibliothèque nationale à Prague n'est pas terminé. Certains politiciens parlent même de réaliser le projet futuriste de l'architecte Jan Kaplitsky, disparu, vous le savez, l'année dernière. Je vous souhaite une très agréable réception où que vous soyez dans le monde. Et on commence donc avec l'Institut tchèque pour la protection des données personnelles qui souhaite que la société Google modifie sa méthode de collecte de données pour son application appelée Google Street View. Selon l'Institut, les photographies panoramiques mises en ligne sont prises de trop haut et portent atteinte à la vie privée. Ce mercredi, son directeur Igor Niemetz a annoncé lors d'une conférence de presse que Google devait arrêter de prendre ses clichés réalisés à l'aide d'une sorte de périscope fixé sur le toit d'un véhicule. On écoute Igor Niemetz.
Ce qui nous gêne, si on se réfère à la loi sur la protection des données personnelles, c'est que Google utilise un appareil fixé à 2,70 m de hauteur, ce qui empiète sur la vie privée des citoyens qui se plaignent que l'on peut voir sur ces clichés l'intérieur des logements et derrière les balustrades.
Objevují se fotografie vybavení bytů a tomu, co se nachází za ploty.
Selon son directeur, l'Institut de protection des données personnelles a déjà reçu des dizaines de plaintes à cause de Google Street View, et dans l'une de ses requêtes, un homme s'est notamment plaint qu'on pouvait voir le nombre de paires de chaussures devant sa porte et ainsi deviner le nombre de personnes vivant dans son logement. Autre objection soulevée par l'autorité tchèque, le statut légal de la société Google. Igor Niemetz.
Google Street View nekoná v tuto chvíli v souladu s zákonem na ochranu osobních údajů, který
Google Street View ne respecte pas un point de la loi tchèque qui oblige toute société dont le siège social est situé hors de l'Union européenne et qui gère des données personnelles à avoir une structure ici qui s'occupe de cette gestion. Ce que Google Incorporation n'a pas fait.
Což Google Incorporated neučinilo.
Il existe pourtant une succursale de Google en République tchèque, Google Czech Republic, mais l'Institut de protection personnelle ne la reconnaît pas en tant que représentante de Google Inc. pour Google Street View. Dans un communiqué publié mercredi, cette société, Google Czech Republic, faisait part de sa déception quant à la décision des autorités tchèques, arguant que des moyens importants tels que le floutage des visages et des plaques d'immatriculation des véhicules avaient été développés pour protéger la vie privée des citoyens. Il est également possible de demander qu'une photo soit retirée du site. La société a également indiqué qu'elle allait continuer à mener un dialogue constructif avec les organes tchèques responsables, mais selon son communiqué, la hauteur de la caméra Google avait été bien étudiée pour ne pas avoir dans le champ trop de piétons ou de véhicules qui pourraient gêner. Google a déjà fait l'objet de critiques et de procédures dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne, la Suisse et la Grande-Bretagne, à cause justement de Google Street View. La question devrait faire l'objet d'une réunion le 12 octobre prochain à Bruxelles entre les directeurs des institutions nationales de protection de la vie privée et les représentants de la société Google. Suite des faits et événements, on parle de train maintenant, puisque la société des chemins de fer tchèque, České dráhy, cherche à attirer de nouveaux clients. Elle a lancé une campagne pour réhabiliter les chemins de fer et pour réapprendre aux gens à voyager en train. Václav Richter.
Ce sont les trains régionaux qui sont visés par cette nouvelle initiative. Dans son cadre, les voyageurs potentiels sont invités à prendre le train pour un prix symbolique d'une couronne. Ce mardi, c'était les voyageurs sur la ligne reliant les villes de Jablonec et de Liberec en Bohême du Nord qui ont bénéficié de ce prix extrêmement avantageux. Jiří Ješeta, de la section de marketing de České dráhy, explique pourquoi les organisateurs de cette campagne ont choisi justement la ligne Jablonec-Liberec.
Il s'agit des lignes de chemin de fer sur lesquelles nous avons procédé à des changements pour améliorer la qualité de nos services. Il s'agit par exemple de la mise en service de nouvelles rames, mais aussi de l'accélération des transports, de la remise en service des tronçons de voies ferrées ayant été fermés pour réparation, et tout cela se traduit par une amélioration de la qualité des transports. Nous désirons ramener au chemin de fer les gens qui avaient été nos clients, et on choisit ensuite une autre possibilité de transport.
Ce n'est pas pour la première fois que la société des chemins de fer utilise cette stratégie pour attirer de nouveaux clients. Selon l'attachée de presse de České dráhy, Kateřina Šubová, des campagnes de ce genre ont été organisées avec succès déjà au printemps dernier. Sur la ligne Milovice-Prague, le nombre de voyageurs a augmenté de 60%. Sur celle reliant les villes de Šumperk et Dolomouc en Moravie, l'augmentation du nombre de clients a atteint 30%. Et la société de chemin de fer va récidiver encore dans 7 autres régions tchèques. Jusqu'à présent, České dráhy était pratiquement sans concurrence en Bohême du Nord, mais ce monopole prend fin. Déjà à partir de décembre prochain, la ligne Liberec à Hradec nad Nisou, ligne qui traverse la frontière allemande pour revenir de nouveau sur le territoire tchèque, sera desservie par la société Vogtlandbahn du groupe Arriva qui a remporté un appel d'offres. Un changement important est attendu aussi sur les chemins de fer de Bohême centrale. À partir du mois de décembre prochain, les transports suburbains de la région pragoise seront considérablement renforcés. Quelques 70 nouveaux trains de banlieue seront ajoutés à ceux qui existent déjà. Leur nombre atteindra au total 842. Les environs de Prague seront donc la seule région de la République tchèque où l'offre des transports ferroviaires sera élargie.
Du train à la littérature, il n'y a qu'un rail et l'écrivain Jachim Topol est le nouveau lauréat du prix Jaroslav Seifert, un prix littéraire prestigieux en République tchèque. L'occasion pour Anna Kubichtad de revenir sur l'œuvre et la vie de cet auteur dont les romans ont été abondamment traduits à l'étranger.
Milan Kundera, Jiří Kolář, Václav Havel, Josef Škvorecký, Bohumil Hrabal et bien d'autres. C'était la suite de ces grands noms de la littérature tchèque que celui de l'écrivain Jachim Topol vient de s'ajouter. Lauréat du prix Jaroslav Seifert, Jachim Topol se voit ainsi distingué pour son tout dernier roman, Chladnou zemi, qu'on pourrait traduire par Le pays froid, même si le jury dit avoir pris en considération l'ensemble de son œuvre. Une œuvre qui a franchi les frontières de la République tchèque puisque depuis les années 90, Jachim Topol fait partie des écrivains tchèques les plus traduits à l'étranger, notamment en français. Hormis son premier roman, traduit en français Ange Exit, toutes les autres productions de Topol, qu'il s'agisse de Mission Nocturne ou plus récemment de Zone Cirque, sont toujours ancrées dans un événement clé de l'histoire tchèque ou centre-européenne. 1968 et l'invasion des chars soviétiques ou encore la Seconde Guerre mondiale, l'histoire sert la réflexion et l'imagination de l'auteur sans jamais leur rendre esclave. C'est également le cas de Chladnou zemi, comme l'explique lui-même Jachim Topol.
Je pense que cela touche à l'histoire comme presque tous mes livres. Mais ce n'est en aucun cas un roman historique, cela parle des gens qui vivent aujourd'hui. De manière générale, je réfléchis à la question suivante. Où est-on? Qui est-on? Pour nous, Pragois, quand quelqu'un de Londres ou Paris nous dit qu'on est d'Europe de l'Est, on n'en croit pas nos oreilles. Mais quand nous-mêmes voyageons en Ukraine, par exemple, on s'estime être de l'Ouest. Cette situation bâtarde me convient tout à fait. Plus vous allez à l'Est, plus l'histoire récente est cruelle et plus elle est présente.
C'est son roman Sestra, publié en 1994, qui révèle véritablement l'écrivain, déjà connu comme dissident, poète, cofondateur de l'hebdomadaire Respect et parolier du groupe de son frère Psivojace. Le public tchèque puis international découvre alors l'écriture sans phare de Topol, un style qu'il va puiser dans le langage de la rue. Jachim Topol.
Čeština je specifická, my nikdo nemluvíme úplně spisovně. La langue tchèque est très spécifique. Personne d'entre nous ne parle réellement de manière littéraire, correcte. Nous avons toujours tendance à parler de manière familière, d'utiliser de l'argot. Je veux que mes livres reflètent ce langage. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'argot et que je joue avec les guillemets. Mais l'important, c'est que le texte sonne naturel.
Le prix Jaroslav Seifert est décerné depuis 1986, d'abord à Stockholm, puis à Prague, depuis les années 90. Jachim Topol recevra officiellement son prix le 5 octobre prochain des mains du créateur de la fondation de la charte 77, František Janauch.
C'est le leitmotiv des campagnes électorales tchèques, la construction de la pieuvre ou du blob, qu'on appelle le projet de Jan Kaplický de la nouvelle Bibliothèque nationale de Prague. Le projet revient à l'ordre du jour, d'un mois des élections municipales. La majorité des partis politiques, y compris l'adversaire de longue date du blob, le parti ODS, donne le feu vert à la réalisation du projet, alors que la rénovation du bâtiment actuel de la bibliothèque est déjà en cours. Magda Rozinkova.
Tous ceux qui ont pris au sérieux le projet de Kaplický pour la construction de la nouvelle bibliothèque nationale, tous ceux qui n'y voient pas un moyen de règlement de compte, devraient se boucher les oreilles pour les 3 semaines à venir. Conseille Zbigniew Petráček dans le quotidien Lidové Noviny, en constatant que dans ce débat actuel, il ne s'agit aucunement de la bibliothèque en tant que telle, mais d'une bataille dans laquelle les émotions des électeurs sont en jeu. Un bref rappel des faits. Au printemps 2007, le célèbre architecte tchéco-britannique Jan Kaplický remporte le concours pour la construction de la nouvelle bibliothèque nationale de Prague dans le quartier de Letná. Son projet divise la société tchèque, sa victoire dans le concours est mise en cause. Vivement critiquée par le président Václav Klaus, la pieuvre est défendue par de nombreuses personnalités culturelles. En juillet 2008, le ministère de la Culture met un terme à la réalisation du projet. 6 mois plus tard, disparaît son auteur, Jan Kaplický. Après la mort subite de l'architecte, l'épouse de l'ancien leader social-démocrate Jiří Paroubek a contribué à lancer une collecte nationale pour la construction du Blob en déclarant, je cite, « La fondation de la bibliothèque figure dans le programme électoral de la social-démocratie, c'est une promesse publique ». 5 mois après l'échec du parti aux élections législatives, les époux Paroubek refusent de s'expliquer à propos de la pieuvre. La somme collectée ne s'élève qu'à plusieurs dizaines de milliers de couronnes, trop peu pour encourager un projet dont le budget s'échelonne entre 2 et 4 milliards de couronnes. Une somme dont l'État ne dispose et ne disposera pas, selon le Premier ministre Petr Nečas. Le ministre de la Culture, Jiří Bessel du Top 09, le confirme.
À l'avenir, nous aurons besoin du Blob, mais actuellement, la décision gouvernementale est différente.
Où devrait-on construire la bibliothèque? À l'Etna ou à l'emplacement de l'ancien palais des congrès? Voilà les questions qui pourtant préoccupent les candidats à la mairie de Prague. Les représentants de l'ODS auraient même rencontré Eliška Kaplický qui milite inlassablement pour la réalisation du projet de son mari défunt. Une situation quasi schizophrène étant donné que la rénovation de Clementinum, l'actuel siège de la Bibliothèque nationale, ainsi que la construction d'un nouvel entrepôt d'ouvrages en banlieue sont en cours. Fidèle quant à lui à son discours anti-blob, le maire de Prague, Pavel Bém de l'ODS, juge ce débat populiste. Et la presse conclut, parlant de la Bibliothèque nationale, mise en dehors de la campagne et en respectant les faits.
Et c'est déjà la fin de ces faits et événements, mais le programme de Radio Prague en français continue avec l'émission « Le miroir de la société ». Certains aspects inattendus de la campagne électorale qui précède les prochaines élections communales, un nouveau regard critique du président Václav Klaus sur l'Union européenne et rappel d'un destin hors du commun, tels sont les thèmes qu'Alena Gebertova a choisi pour vous dans la presse cette semaine.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
La lutte contre les groupes asociaux fait partie de la campagne électorale des grands partis. S'agit-il d'un nouveau phénomène qui devrait nous inquiéter? Telle est l'interrogation à laquelle, à 4 semaines des prochaines élections communales et sénatoriales partielles, les médias cherchent des réponses.
Comment est-ce possible que les grands partis, qui sont solidement et idéologiquement établis sur l'échiquier politique du pays, veuillent se définir face aux groupes asociaux? Pourquoi utilisent-ils des termes durs en promettant de débarrasser les villes des SDF, des drogués et des bars avec machines à sous? Autant de questions que soulève un commentaire paru dans l'édition de mardi du quotidien Lidové Noviny.
L'auteur de l'article écrit que c'est un phénomène qui existe aussi ailleurs, à Anvers, à Milan ou à Vienne, tout en soulignant que dans ces pays, cette carte est cependant jouée par les partis régionaux et donc peu influents comme l'Intérêt flamand en Belgique, la Ligue du Nord en Italie ou le FPE en Autriche.
À Prague et dans certaines autres villes tchèques, ce sont en revanche les grands partis traditionnels, le Parti civique démocrate à droite et le Parti social-démocrate à gauche, qui utilisent dans leur campagne électorale des accents radicaux. Et de rappeler certains slogans auxquels ces deux partis, et pas seulement ceux-ci d'ailleurs, avaient jusqu'ici recours et qui appellent à moins de tolérance, voire à la tolérance zéro, envers ceux qui ne veulent pas travailler ou envers ceux qui se shootent, ce qui en même temps ne les empêche pas de manifester de l'intérêt au problème des SDF.
A-t-on affaire à une simple tendance ou bien à un nouveau discours politique? Un nouveau climat dans la société s'impose-t-il au fur et à mesure? Voilà les questions qui préoccupent l'auteur de l'article.
Cet aspect de la campagne électorale est évoqué aussi dans l'édition de ce mercredi du quotidien économique Hospodarské noviny. À en juger d'après le ton insistant de certaines affiches électorales, on pourrait croire que le plus grand problème des communautés et des municipalités tchèques réside dans la coexistence avec les personnes que l'on a pris l'habitude de caractériser comme « peu adaptables », écrit Petr Fischer, qui s'arrête sur le côté fascisant de certains slogans.
Un état unique, des règles uniques ou encore, dehors les drogués, les SDF ou les bars avec machines à sous. Voilà les phrases qui ont été utilisées par des franges du Parti social-démocrate dans le nord de la Bohême et dans un district de Prague, ne serait-ce que temporairement et jusqu'au moment où la direction du parti a ordonné de retirer les panneaux en question. on va enlever les allocations à ceux qui refusent de travailler. Tel est d'un autre côté un des remèdes proposés par le Parti civique démocrate à droite, dont les représentants municipaux de Prague ont en outre semé la controverse en proposant l'édification des camps de détention pour les SDF non adaptables à la périphérie de la capitale.
Selon l'auteur de l'article intitulé « Celui qui ne s'adaptera pas ne mangera pas », ce sont évidemment surtout les familles roms qui sont sous-entendues, bien que ceci ne soit pas explicitement dit. Il écrit
« La société capitaliste, comme d'ailleurs toute société, donne naissance à des groupes qui se retrouvent en marge de la société. Il faut soigneusement différencier les raisons qui sont à l'origine de leur chute dans le gouffre matériel et existentiel. Le plus souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire front à la complexité et au rythme de la vie dans la société post-industrielle fugitive, basée sur la performance. » Et de conclure «
L'idée que les SDF, les Roms, les chômeurs et d'autres allocateurs soient eux-mêmes responsables de leur misère, car ils sont bêtes et paresseux, est stéréotypée et dangereuse, d'autant plus lorsqu'elle devient la base de la politique officielle.
Le président de la République, Václav Klaus, effectue une visite aux États-Unis, qui culminera au siège de l'ONU à New York. Il a été aussi invité à l'université Johns Hopkins à Baltimore, où il a prononcé un discours. Le journal Gospodarske Noviny publie son texte intégral, dont nous avons choisi quelques extraits. Fidèle à lui-même, Václav Klaus porte notamment un regard très critique sur l'Union européenne. Il écrit.
En 2004, nous sommes devenus membres de l'Union européenne car nous voulions participer au processus d'intégration européenne et comme nous n'avions en fait pas d'autre choix. Mais pour nous les autres, qui avons passé une grande partie de nos vies dans un régime communiste autoritaire, le processus d'affaiblissement de la démocratie et du marché au sein de l'Union européenne constitue un phénomène très peu souhaitable.
Aux yeux de Václav Klaus, la régulation et l'harmonisation des règles sous la baguette européenne affaiblissent et limitent la liberté, la démocratie, sans parler de l'efficience économique et de la capacité de concurrence.
Le président tchèque s'en prend aussi à l'euro. Nous citons « Les politiciens et les économistes comme moi ont compris il y a longtemps que le concept d'une monnaie européenne unique était un projet dangereux, susceptible de provoquer des problèmes économiques ou de mener à la centralisation non démocratique de l'Europe. La dernière décennie a montré que le projet de l'eurozone n'a pas porté les fruits positifs que l'on attendait. » Et de constater que l'eurozone n'est pas une zone monétaire optimale, comme l'a défini la théorie économique.
Dans son discours, Václav Klaus n'a pas omis non plus l'actuelle crise économique. Pour lui, celle-ci n'est pas la conséquence d'une déficience du marché ou d'un défaut inhérent au capitalisme. Elle est avant tout la preuve d'un échec de l'État, le produit des interventions étatiques dans un système aussi complexe que représentent la société et l'économie. Václav Klaus conclut sa réflexion par les mots suivants.
En République tchèque, notre transformation depuis le communisme vers une société libre, vers la démocratie parlementaire et l'économie de marché, s'appuyait sur la libéralisation radicale, la dérégulation, la privatisation et le slogan de Milton Friedman « Nous sommes pro-market et non pas pro-business ». Aujourd'hui, nous sommes déçus de voir que ce duel n'est pas encore terminé et qu'il doit être incessamment renouvelé, en Amérique, en Europe et en République tchèque.
L'histoire a des protagonistes clés qui demeurent pourtant à l'ombre des grands personnages. Peut-on lire dans une des récentes éditions de l'hebdomadaire littéraire Literarni Novine qui dresse dans ses pages un bref portrait d'une femme hors du commun qui est récemment décédée, l'anglaise Marianne Schlingová Fagan, dont la vie a été étroitement liée à l'ancienne Tchécoslovaquie. Une vie et un destin qui méritent d'être rappelés.
Née en 1913 en Nouvelle-Zélande, dans une famille britannique aisée, elle fait des études en botanique à Oxford, adhère au Parti communiste, s'engage dans le mouvement pacifiste. En 1941, elle épouse un réfugié juif venu de Tchécoslovaquie, Otto Schling, communiste et vétéran de la guerre d'Espagne.
Après la guerre, toute la famille avec ses deux petits-enfants revient en Tchécoslovaquie. Haut fonctionnaire du Parti communiste à Brno, Otto Schling est arrêté en 1950 pour être condamné lors du procès avec Rudolf Slansky et exécuté en décembre 1952. Marianne Schlingová passe 2 ans en prison. leurs enfants sont envoyés dans un foyer d'enfants.
Libérée en 1953, elle doit se réfugier à la campagne où elle travaille comme ouvrière non qualifiée. Elle habite un appartement misérable, sans salle de bain ni WC. Et avec le dégel qui survient tant bien que mal en 1956, elle retourne à Prague et travaille dans une maison d'édition. Ses fils ne peuvent d'abord fréquenter qu'un centre d'apprentissage. Ce n'est que plus tard qu'ils pourront faire des études.
Otto Schlink est réhabilité in memoriam en 1963. Dès lors, sa femme Marianne traduit en anglais des œuvres de Ludwig Vasulik et de Bohumil Hrabal d'Otto Schlink et décrit dans un livre son expérience pénitentiaire.
Après 1968, elle revient en Grande-Bretagne, où elle continue à traduire en anglais notamment des textes de dissidents tchèques, tandis que ses fils décident de rester à Prague. L'aîné Jan est mis en prison pour ses activités de dissident, dans la même prison qui abritait auparavant ses parents avant d'être expatrié. Le cadet Karel, qui signe la charte 77, se voit licencié de son poste d'économiste et prend à son tour le chemin de l'immigration.
Marianne Schlingova est morte cet été, à Londres, à l'âge de 97 ans.
Voilà, c'est bientôt la fin du programme en français de Radio Prague. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver à toute heure de la journée ou de la nuit sur Internet, sur notre site www.radio.cz pour écouter cette émission ou une des émissions des archives de Radio Prague. Au revoir, nasredano.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.